bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Impôts, pensions alimentaires, RIP, quelles sont les pistes envisagées par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes? Élément de réponse dans un instant, le chef de l'État, lui, doit s'exprimer ce soir à 20h. Dans cette édition, nous nous pencherons aussi sur le Rassemblement national. Alors que la campagne pour les européennes est officiellement lancée aujourd'hui, le RN présente un manifeste pour des frontières nationales et des frontières européennes, vous l'entendrez. Et puis, dans quel état d'esprit se trouve Erol Underoğlu? Représentant de RSF en Turquie. Le journaliste risque de la prison ferme pour avoir défendu un média kurde. Nous l'avons rencontré. Pendant plusieurs mois, vous avez échangé et nous vous avons écouté. Demain soir, je vous réponds. Ces mots sont extraits de la vidéo mise en ligne hier soir par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Le président va donc prendre la parole ce soir à 20h pour définir les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes selon le communiqué de la présidence. Nous sommes 5 mois après le début de la crise des gilets jaunes. Des annonces donc perçues par ses proches comme le point de départ de l'acte 2 du quinquennat Macron. Stéphane Goyer, nous avons déjà quelques pistes sur ce qui pourrait être dévoilé ce soir.
L'une des pistes les plus concrètes concerne la fiscalité, avec du changement à prévoir du côté de l'impôt sur le revenu. De nouvelles tranches pourraient être créées en bas du barème d'imposition, de tranches fixées a priori à 5 et 10% d'après les informations recueillies par nos confrères du journal du dimanche. Autre dossier qui pourrait évoluer, les retraites après l'annulation de la hausse de la CSG pour les plus en difficulté. Emmanuel Macron pourrait proposer une réindexation des petites retraites sur l'inflation, mesure qui irait à contre-pied du plafonnement de la hausse des pensions à 0,3% au 1er janvier, quand l'inflation était-elle d'1,8%. Et pour les mères célibataires, l'exécutif réfléchit aussi à créer un système visant à garantir le paiement des pensions alimentaires. Ces réformes ne constituent qu'une partie des pistes envisagées, une partie du volet fiscalité, une réponse à l'exaspération fiscale des Français, d'après les mots utilisés par le Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière. Côté institution, plusieurs pistes sont également à l'étude, avec pourquoi pas un passage à 20% de proportionnel pour les prochaines législatives au lieu des 15 envisagés jusque-là. Les ex-présidents, premiers ministres et ministres pourraient, eux, voir leurs avantages supprimés. On parle ici des chauffeurs ou encore des locaux mis à leur disposition à la fin du mandat. Mais si des mesures concrètes sont bien attendues, comme le précise le communiqué de l'Élysée, pas question pour autant de changer de ligne directrice. Le référendum d'initiative citoyenne, tout comme le retour de l'impôt sur la fortune, semble d'ores et déjà écarté.
Et ajoutons qu'après cette allocution prévue ce soir, mercredi, c'est-à-dire après-demain, le chef de l'État expliquera ses choix dans une conférence de presse. Emmanuel Macron qui clôt donc le grand débat national le jour du début officiel de la campagne pour les européennes. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, va contrôler l'égalité de la diffusion du temps de parole pour les partis candidats. Ils sont 14 à s'être déclarés actuellement. Les listes peuvent être déposées jusqu'au 3 mai prochain. La plupart des partis n'ont d'ailleurs pas fini d'attribuer les 79 places par liste. C'est le cas par exemple du Rassemblement national, dont on ne connaît pour le moment que les 12 premiers noms de la liste. Le RN proposera ce soir un manifeste pour une alliance européenne des nations, Anne Fauquemberg.
Ils seront deux ce soir à présenter ce manifeste à deux pas du Parlement européen. Hervé Juvin, le nouveau théoricien du Rassemblement national numéro 5 sur la liste pour le scrutin du 26 mai, et Nicolas Bay, eurodéputé sortant, placé en 7e position. Ce texte de 80 pages, Marine Le Pen l'a présenté il y a 10 jours à Paris à Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Il n'a pas encore été validé par la Ligue ni par les autres partenaires du RN comme les Flamands du Vlaams Belang ou les Grecs de Néadexia, mais il a été traduit en anglais dans une version courte pour le diffuser au sein de l'Union européenne, explique Philippe Olivier. Parmi les propositions phares, le conseiller spécial de Marine Le Pen cite la création d'une RNE, d'une responsabilité nationale pour les entreprises. Une mesure, explique-t-il, qui s'adresse aux gilets jaunes qui demandent de savoir comment l'argent public est dépensé. Il s'agirait donc d'établir de nouveaux critères pour attribuer les marchés publics. Regardez, par exemple, si l'entreprise n'emploie pas de travailleurs détachés et ne délocalise pas ses emplois. Le Rassemblement national qui se prononce également contre le libre-échange en y opposant un discours écologiste et localiste, discours égrené dans la tournée des mini-meetings qui se poursuivent dans les petites villes où se rendent depuis plusieurs semaines les candidats RN aux européennes. Le tout sous-tendu par une base identitaire sur la règle du « et » et des frontières nationales et des frontières européennes. Les éléments de langage sont en train de se roder.
L'attachement aux frontières nationales, le parti eurosceptique des vrais Finlandais en fait aussi un argument de campagne et il semble avoir été entendu. En Finlande, donc, ce parti d'extrême droite anti-immigration arrive deuxième aux législatives, deuxième à 0,2% seulement des vainqueurs sociaux-démocrates. Le scrutin a eu lieu hier. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu hier au Caire le maréchal Haftar, dont les forces tiennent l'est de la Libye et cherchent toujours à prendre Tripoli. De violents combats ont encore eu lieu ce week-end en Libye, à 11 km de la capitale. Selon les Nations Unies, l'offensive d'Haftar a fait 121 morts en 10 jours, 561 blessés au moins. L'ONU estime par ailleurs que plus de 13 600 personnes ont déjà fui leur domicile. Le verdict pourrait tomber aujourd'hui, lundi, dans le procès du représentant de Reporters sans frontières en Turquie. Erol Onderoğlu et deux autres défenseurs des droits humains sont poursuivis pour propagande terroriste, apologie d'un crime et incitation à commettre un crime. Le crime en question est d'avoir pris part en mai 2016 à une campagne de solidarité avec un quotidien kurde. Il risque plusieurs années de prison. À Istanbul, notre correspondante Anne Andlauer a rencontré Erol Onderoğlu à quelques heures du verdict.
Depuis presque 3 ans, il rechignait à évoquer son procès par crainte d'attirer l'attention sur son cas personnel. Désormais, le journaliste Erol Onderoğlu, représentant de RSF en Turquie depuis 23 ans, se dit pressé d'en finir.
Non seulement ça représentait un des dossiers parmi les centaines que je suivais et ça me gênait pas mal, mais il est inévitable que le dossier s'approche de vous au fur et à mesure que vous vous approchez du verdict parce que vous reprenez conscience du fait qu'il y a des conséquences familiale, professionnelle, peut-être des mois enfermés derrière quatre murs, etc.
Erol Onderoğlu risque en réalité jusqu'à 7 ans et demi de prison pour 3 articles publiés dans le quotidien kurde Özgür Gündem, interdit en août 2016. Lui qui, rapport après rapport, fait état de la disparition de la liberté de la presse et de l'indépendance judiciaire en Turquie, ne se fait aucune illusion. Son pays semblait pourtant promis un tout autre avenir.
Un pays si dynamique pour un rapprochement avec l'Union européenne, etc., se retrouve désormais à un nettoyage idéologique. La société civile, les journalistes critiques, eux, prennent leur part de cette répression. Bon, ce qui nous reste, c'est de faire valoir nos droits, c'est de faire valoir les valeurs. Et on payera s'il le faut, bien évidemment.
Dans le dernier classement de la liberté de la presse publié par RSF, la Turquie occupe la 157e place sur 180 pays. Une chute de 60 places par rapport à 2005, année où l'Union européenne a officiellement ouvert les négociations d'adhésion avec Ankara.
Les manifestants au Soudan sont appelés à continuer le mouvement de contestation. Ils demandent toujours pacifiquement à faire partie du processus de transition après l'éviction du président Omar el-Béchir. Depuis une semaine, l'armée soudanaise a pris le pouvoir. Il s'est exprimé à 120 mètres de profondeur. Le président des Seychelles a plaidé hier en faveur de la protection des océans, estimant que l'humanité est à court d'excuses et de temps. Il parle d'un moment historique pour les Seychelles, un archipel de quelque 115 îles. L'année prochaine, 30% de leur superficie marine seront classées en zone protégée. L'environnement à protéger, on en parle aussi à Paris, au cœur du bois de Boulogne. La fondation Good Planet a rouvert ses portes ce week-end. C'est une structure créée par le photographe Yann Arthus Bertrand qui entend défendre la biodiversité. Avec les ateliers mis en place dans sa fondation, il espère ainsi toucher les citoyens face au réchauffement climatique.
Les scientifiques nous parlent de la 6e extinction. Chaque année, on parle de la dernière fois qu'il y a eu autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était il y a 3 millions d'années, à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. Donc quelque part, voilà, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas arrêter le changement climatique, que cette espèce de religion de la croissance dans laquelle on est embarqué, on ne peut pas l'arrêter, parce qu'on dépend tous de la croissance, et tous les pays dépendent de la croissance. Et cette notion de vivre mieux avec un peu moins, voilà, ce n'est pas dans l'air du temps du tout. Donc les gens, aujourd'hui, se sont bien rendus compte qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font ne sert pas à grand-chose, parce que c'est vrai que d'année en année, les chiffres sont de plus en plus mauvais. Et en même temps, je pense que c'est important de savoir que tout ce qu'on fait n'est pas inutile. Et l'idée ici, c'est un peu de ça, c'est parler de ça. C'est parler aussi bien des abeilles que des réfugiés, pour savoir qu'on peut tous faire quelque chose. Il y en a qui peuvent faire beaucoup plus, il y en a qui vont faire moins, mais ce qui est important, c'est de faire et de se rendre compte. Voilà, c'est tout simple. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler à des gens ici qui n'ont pas forcément une vision positive de l'écologie, une position assez sectaire de l'écologie, alors que l'écologie, nous, on essaye d'avoir une écologie pleine de bienveillance, d'empathie, de gentillesse, de compassion. Alors, c'est peut-être un peu ridicule et nounouche, mais je crois beaucoup que ces valeurs sont importantes dans le monde d'aujourd'hui.
Des propos recueillis par David Ravier, c'était Yann Arthus-Bertrand. La météo sur l'Hexagone ce lundi, le ciel s'annonce plutôt lumineux sur l'ensemble du pays, même si une perturbation va arriver cet après-midi par l'ouest. Comptez 6 degrés à Besançon ce matin, 9 degrés à Lyon, 10 à Paris et Rennes, 16 à Marseille.